tous, vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, édition de ce mardi 23 avril 2024. Nous émettons en direct de Washington DC, John Linden à la présentation de cette édition dont voici le sommaire. Crise dans l'est de la RDC, Emmanuel Macron appelle à la reprise du dialogue entre les présidents rwandais et congolais et au respect de l'intégrité du territoire congolais. Le Rwanda, qui se dit satisfait de l'adoption par le Parlement britannique d'un projet de loi controversé visant à expulser les demandeurs d'asile vers son territoire. Un partenariat repensé entre le Sénégal et l'Union européenne, c'est ce que souhaite le nouveau président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye l'a dit lors d'une déclaration conjointe avec Charles Michel, président du Conseil européen, en visite au Sénégal. 88% des Américains, selon des sondages, sont favorables à une légalisation au moins partielle du cannabis aux États-Unis. Mais ce sujet intéresse-t-il les candidats à la présidence? Réponse dans notre page magazine. Et puis, ne ratez pas la Minute Éco et les sports, mais pour commencer, le journal. Et d'abord, le Sénégal, où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, investi le 2 avril, a plaidé pour un partenariat repensé avec l'Union européenne. C'était lors d'une déclaration conjointe avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite au Sénégal. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Le président Bassirou Diomaye Faye avait promis dans son programme de rétablir une souveraineté bradée selon lui à l'étranger et souhaite notamment renégocier des contrats gaziers et pétroliers ainsi que les accords de pêche signés avec l'Union européenne. Entre l'Europe et le Sénégal, la coopération est dense et multiforme, mais ensemble nous voulons un partenariat repensé, rénové et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations, a déclaré le chef de l'État sénégalais. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a été réceptif au message du nouveau président, répondant que lorsqu'il y a le sentiment que des sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter pour apporter des améliorations de part et d'autre, a déclaré M. Michel en citant la question de la pêche et des ressources halieutiques. Le président sénégalais a également indiqué que la priorité de son gouvernement s'articule autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, agriculture, élevage et pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers.
Au Mali, un groupe réunissant des partis politiques maliens et des organisations de la société civile a déposé un recours auprès de la Cour suprême lundi, demandant l'annulation du récent décret du pouvoir suspendant les activités politiques. L'appel conjoint des groupes politiques et de la société civile condamne le décret du 10 avril comme étant tyrannique et oppressif. Il demande son annulation par la plus haute juridiction du pays. Le délai d'examen de l'appel par la Cour suprême reste incertain. Le président français Emmanuel Macron a appelé ce mardi au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'était lors d'un échange téléphonique avec son homologue rwandais Paul Kagame qu'il a aussi invité à renouer le dialogue avec le président congolais Félix Tshisekedi. Mouamadou Mfa.
Le président français a abordé lors de la conversation la question de la stabilité régionale et de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier dans le nord Kivu, a rapporté l'Élysée. Cette province frontalière du Rwanda est en proie aux violences de nombreux groupes armés qui se sont récemment intensifiés. Monsieur Macron a appelé à la reprise des discussions au plus haut niveau entre les présidents de la RDC et du Rwanda et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, selon la présidence française. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés pour la dernière fois le 16 février à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, lors d'un mini-sommet organisé par la médiation angolaise en marge d'un rendez-vous de l'Union africaine. Avec Paul Kagame, le président Macron a par ailleurs passé en revue les différentes priorités de la relation bilatérale qui s'est renforcée ces dernières années, a rapporté l'Élysée sans plus de précision.
Les appels internationaux se multiplient pour exhorter le Royaume-Uni à renoncer à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda après l'adoption par le Parlement britannique d'une loi qualifiée d'historique par le Premier ministre Rishi Sunak. Les précisions avec Dili Diko.
Après des mois de bataille, le Parlement britannique a approuvé, dans la nuit de lundi à mardi, le projet de loi permettant l'expulsion de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Le gouvernement espère débuter les expulsions d'ici 10 à 12 semaines. Ce matin, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est félicité de l'adoption de la loi et souligné qu'elle établit clairement que si vous venez ici illégalement, vous ne pourrez pas rester. L'ONU a demandé à Londres de reconsidérer son plan, dénonçant des lois britanniques qui ont érodé l'accès à la protection des réfugiés depuis 2022. Le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Turk et son homologue en charge des réfugiés, Filippo Grandi, ont appelé le gouvernement britannique à plutôt prendre des mesures pratiques pour lutter contre les flux irréguliers de réfugiés et de migrants sur la base de la coopération internationale et du respect des droits de l'homme. De son côté, Kigali se dit satisfait. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a fait savoir que les autorités sont impatientes d'accueillir les personnes relocalisées au Rwanda.
Les présidents tunisiens, algériens et libyens sont convenus à l'issue d'une réunion consultative à Tunis de lutter ensemble contre les impacts de l'immigration clandestine et d'unir leurs positions et leurs discours sur cette question. Les trois dirigeants sont convenus à la formation des équipes communes qui seront chargées de sécuriser leurs frontières communes du danger et des impacts de l'immigration non organisée. Le Maroc et la Mauritanie n'ont pas été conviés à cet événement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre entre Israël et le Hamas palestinien est entrée mardi dans son 200e jour sans aucun signe de répit, malgré les appels pressants à la libération des otages à l'heure où les craintes d'une offensive israélienne sur la ville de Rafah s'intensifient. Davantage avec Alexandrine Holognon.
L'armée israélienne a procédé à d'intenses tirs d'artillerie durant la nuit d'hier à ce matin. Des frappes aériennes ont visé le centre de Gaza près du camp de réfugiés de Bourrej, tandis que des tirs d'artillerie ont touché le camp de Nusayrat. Les bombardements de ces dernières 24 heures ont tué 32 Palestiniens, selon le ministère de la Santé du Hamas, portant le bilan total à 34 183 morts. Les appels à la libération des otages israéliens détenus à Gaza se multiplient. Dans la foulée, le Qatar, avec l'Égypte et les États-Unis, tentent d'arracher une trêve. Les négociations piétinent, Israël et le Hamas s'accusant de les bloquer. Par ailleurs, les violences se multiplient à la frontière nord d'Israël avec le Liban, entre l'armée et le Hezbollah libanais, allié du Hamas. Ce dernier a annoncé avoir visé à l'aide de drones deux positions militaires dans le nord d'Israël, en riposte à la mort d'un de ses membres tué lors d'une frappe israélienne dans le sud du Liban. Aux États-Unis, plus de 130 personnes ont été arrêtées dans la nuit devant les locaux de l'université NYU à New York après des manifestations étudiantes pro-palestiniennes.
L'Union européenne appelle les donateurs de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à continuer leur soutien au lendemain de la publication d'un rapport évoquant des problèmes de neutralité politique en son sein. J'appelle les donateurs à soutenir l'UMRWA, vital pour les réfugiés palestiniens, a déclaré mardi sur X le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire Janez Lunartich. Le président américain Joe Biden est ce mardi en Floride où il espère que son plaidoyer en faveur du droit à l'avortement trouvera un écho favorable dans cet État à tendance conservatrice. Remporté par Donald Trump lors des élections présidentielles de 2016 et 2020 et dirigé par le gouverneur républicain Ron DeSantis, cet État du Sud-Est a semblé hors de portée pour les démocrates pendant près d'une décennie. Mais depuis que la Cour suprême, sous la présidence de Trump, a supprimé le droit fédéral à l'avortement, les électeurs se sont mobilisés sur la question, même dans les États solidement républicains. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le gouvernement nigérien a annoncé qu'il cherche à mobiliser jusqu'à 2,25 milliards de dollars de financement sous forme de prêts auprès de la Banque mondiale. Abuja espère l'approbation du conseil d'administration de l'institution financière multilatérale en juin prochain. Le géant minier chinois Zijin Mining a déclaré ce mardi qu'il coopérerait avec les autorités de la République démocratique du Congo après que des radiations aient été détectées dans une cargaison de cobalt provenant de sa mine dans le pays. Les autorités congolaises ont suspendu la licence d'exploitation de la mine Komuz de Zijin à la suite de l'incident qui fait l'objet d'une enquête. En France, la grève des contrôleurs aériens prévue jeudi devrait conduire à des annulations de vols un peu partout en France, alors que les syndicats des aiguilleurs du ciel avaient promis une trêve olympique d'un an en septembre dernier.
À présent, c'est l'heure des sports avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Balle au panier pour commencer avec la Basketball Africa League qui bat son plein au Caire en Égypte.
Oui, c'est jour de repos et donc pas de match aujourd'hui au complexe Hassan Mustapha du Caire. Hier, Al Ahly Benghazi l'a emporté 79-68 face aux Ougandais de City Oilers. Les Libyens comptent désormais 2 victoires en 3 sorties. Pour notre consultant Amdinsi, ils sont en train de réussir leur tournoi.
Ils se sont imposés de fort belle manière face à City Oilers, 79-68. Une victoire grâce à un Souleymane Diabaté des grands jours qui a joué 37 minutes et il a marqué 15 points. Il a frôlé le triple-double puisqu'il a mis 11 assists et 9 rebonds. Cette équipe de Al Ahly de la Libye est bien partie quand même pour non seulement titiller Al Ahly du Caire, hein, mais pour décrocher quand même cette qualification.
Merci Amdine. Dans le second match, le champion en titre Al Ahly du Caire a battu les Centrafricains de Bangui Sporting Club 85-79. Les Égyptiens alignent ainsi leur 3e succès en 3 matchs dans cette conférence du Nil qu'ils accueillent.
Basketball toujours ici en NBA, Denver et New York renversant dans 2 fins de match folles.
D'un tir en extension à mi-distance, après un pas en arrière, à la sirène, Jamal Murray a fait exploser de joie la balle Arena de Denver, permettant aux Nuggets de s'imposer face aux Los Angeles Lakers, 101-99. Les 32 points et 11 rebonds d'Anthony Davis et les 26 points, 8 rebonds et 12 passes décisives de LeBron James n'ont donc pas suffi aux Lakers menés 2-0 et qui devront réagir jeudi dans leur salle. À New York, alors qu'il semblait avoir perdu, les Knicks ont renversé les Philadelphia Sixers. Dans les dernières secondes, Joel Embiid, 34 points, 10 rebonds, avait réussi à porter les Sixers à plus 5 à 30 secondes du terme. Mais Donti DiVincenzo s'y est pris à 2 reprises pour rentrer un tir longue distance et placer les Knicks en tête à 14 secondes du terme avant de lancer franc finaux de OG Anunobi pour renverser Philadelphie 104-101 et mener 2-0 dans la série. De son côté, Cleveland a une nouvelle fois étouffé l'attaque du Magic d'Orlando pour une 2e victoire en 2 matchs, 96-86.
Pour finir, cette affaire d'hyper androgénie qui concerne Caster Semenya.
La Cour européenne des droits de l'homme dit qu'elle va se pencher le 15 mai prochain en appel sur le dossier de l'athlète sud-africaine privée de certaines courses parce qu'elle refuse un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Caster Semenya, double championne olympique du 800 mètres, présente un excès naturel d'hormones sexuelles mâles. Elle se plaint d'un règlement de la Fédération internationale d'athlétisme qui l'oblige, depuis 2018, à réduire son taux naturel de testostérone pour pouvoir participer à certaines compétitions internationales. Mais en juillet dernier, la Cour européenne des droits de l'homme lui a donné raison en première instance contre la Suisse, estimant qu'elle est victime de discrimination et de violation de la vie privée. Les autorités helvètes, appuyées par World Athletics, ont porté l'affaire en appel devant la Grande Chambre de la Cour européenne, dont les décisions sont définitives.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden toujours en votre compagnie. Place au dossier du jour. Et on commence par la République centrafricaine. Alors que les recherches se poursuivent sur les rivières Oubangui et Mboko dans l'espoir de repêcher des corps, le bilan du naufrage d'une baleinière vendredi dernier sur la rivière Mboko à Bangui s'alourdit. Pour le moment, on dénombre provisoirement 66 morts et des dizaines de blessés. Le gouvernement a décrété un deuil de 72 heures et annonce l'ouverture d'une enquête. À Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Quatre jours après ce drame qui a endeuillé de nombreuses familles, les recherches se concentrent sur le repêchage des corps. Si officiellement 66 corps sans vie ont été repêchés, plus d'une cinquantaine de familles réclament encore leurs proches portés disparus. La protection civile déploie ses équipes sur les deux rivières avec l'appui de pêcheurs et collecteurs de sable. Thomas Dimassé, directeur général de la protection civile.
Nous avons pu travailler la première journée jusqu'à 16 heures. Après 17 heures, c'était difficile, on ne pouvait plus sous l'eau. Et ce sont ceux qui sont habitués à rester sous l'eau la nuit qui ont continué la nuit jusqu'à 21h pour avoir les 58 corps qu'on a retrouvés. Parce que sinon, tous ces corps seront déjà partis. Le deuxième jour de recherche, on a retrouvé 4 corps à 4 km. Aujourd'hui, on a retrouvé encore 4 corps au village Eboué à 60 km de Bangui. Donc, en descendant vers la Lobaye là-bas. Donc, les statistiques ont évolué des 4 corps qu'on a retrouvés dans un état avancé de putréfaction et qui ont été inhumés là-bas sur place. Donc, 4 plus les 62, ça fait aujourd'hui 66 corps qu'on a eu à retrouver.
Si l'exaspération est encore grande à travers le pays, de nombreuses personnalités et organisations politiques pointent la responsabilité du gouvernement dans ce drame. Élisée Nguemalé, coordonnateur de l'Observatoire pour la gouvernance en Centrafrique.
Mon cœur saigne jusqu'à ce jour. Je pense que le peuple centrafricain ne sont pas protégés. Dans tous les domaines, ils ne sont pas protégés. Nous sommes tués par les groupes armés et même le naufrage, les accidents des routes, tout ça là. Normalement, c'est des faits qui devraient pousser nos dirigeants, les dirigeants politiques, de prendre une décision pour pouvoir arrêter cette hémorragie. Mais malheureusement que nous avons des autorités qui sont vraiment démissionnaires en face de leurs responsabilités. C'est très déplorable.
Rejetant les nombreuses critiques sur son inaction et sa responsabilité, le gouvernement indique avoir été au premier plan de l'assistance aux rescapés et aux parents de victimes. Il annonce l'ouverture d'une enquête. Maxime Balalou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Cette embarcation devait contenir en réalité 60 personnes, c'est la capacité. Mais il y a eu à peu près 300 personnes, c'est-à-dire 5 fois plus. Il faut que je vous le dise, cette baleinière n'a pas navigué depuis le 23 juillet 2023. Elle a été immobilisée. Ça, il faut que vous le sachiez, donc depuis plusieurs mois. Dès que les conditions déjà de cette baleinière n'étaient pas réunies pour transporter autant de personnes. C'est vraiment triste. Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a tellement de spéculations. Le 19, le jour du naufrage, je suis à la télévision, j'ai passé un communiqué. Pour non seulement soutenir les familles endeuillées, ce communiqué est passé en boucle. On nous dit que le gouvernement ne communique pas. Et aussi, tout de suite, les actions humanitaires sont mises en branle. Il y a eu des soutiens aux familles, des kits ont été remis, un soutien aux familles, au niveau sanitaire, au niveau également d'accompagnement physique.
Un deuil de 3 jours est décrété. Du lundi 22 au mercredi 24 avril, tous les drapeaux sont mis en berne. Entre-temps, la solidarité s'organise. Ce mardi, le parti Unir a apporté de l'aide à des rescapés et parents de certaines victimes. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le secteur de l'anacarde connaît une période de commercialisation assez difficile en Côte d'Ivoire. Le prix au kilogramme de l'anacarde est beaucoup trop bas selon les producteurs, qui se plaignent aussi de la rareté des clients. Certains d'entre eux trouvent que la noix de cajou n'est pas de bonne qualité. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomeyo.
Kone Bakari et Konate Ibrahima se plaignent de la commercialisation de la noix de cajou. Ces deux producteurs d'Odiéné dans le nord de la Côte d'Ivoire vendent généralement plus de la moitié de leur production. Mais pour cette campagne de commercialisation, ils n'ont pas pu atteindre ce quota et les noix de cajou jonchent à même le sol. Konate Ibrahima, producteur d'anacarde.
Aujourd'hui, les producteurs ont des difficultés, des sérieuses difficultés par rapport au prix que l'État a fixé. Aujourd'hui, l'anacarde est payée par les acheteurs véreux à des vils prix. Il y a de 275, 250 même dans certains coins. Mais alors que l'État a fixé le prix à 305 francs. Bon, par manque de suivi, parce que le Conseil cotonnier en A4 ne joue pas réellement son rôle pour l'encadrement des paysans et le suivi de l'achat, de la commercialisation du noix d'acajou.
Au problème de prix s'ajoute également un problème de qualité de l'anacarde relevé par les acheteurs. Pour certains producteurs ivoiriens, le marché local n'est pas exploité à sa juste valeur. Il faut donc transformer le cajou et vendre des produits divers aux consommateurs ivoiriens. Sarata Kone, productrice et transformatrice de noix de cajou.
Précisément au niveau de la CITA, nous avons essayé de nous innover en essayant de privilégier le marché local. Car au niveau de l'international, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas nécessairement rencontrer les clients, on ne pouvait pas aller vers les clients. Donc ça, c'était important de pouvoir se diriger vers le marché local. Raison pour laquelle nous avons fait sortir de nouveaux produits pour s'adapter au quotidien des Ivoiriens, moins coûteux, pour essayer d'encourager les Ivoiriens à consommer local et surtout à consommer l'anacarde, qui est l'or gris aujourd'hui.
Mais pour l'heure, la Côte d'Ivoire vend plus qu'elle ne consomme. Le marché ivoirien de cajou représente à peine 10% de la consommation locale. Pour remédier au problème de prix, le Conseil coton en acarde promet d'apporter des solutions pérennes et idoines. Adama Koulibaly, directeur du Conseil coton en acarde.
Il se trouve qu'il y a des acheteurs véreux qui profitent donc de l'absence de compétition sur le terrain pour tenter de prendre le produit moins cher. Mais nos producteurs sont avertis et très souvent, ils retiennent eux-mêmes le produit en attendant donc que les acheteurs plus honnêtes et qui respectent le prix du gouvernement y arrivent.
La Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou au monde. Mais le niveau de transformation reste toujours bas. En 2023, le pays n'a transformé que 22% de sa production de noix brutes, estimée par le régulateur à plus de 1,028 millions de tonnes. Ange Bijou Nomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le ministre djiboutien de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a pris part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues la semaine dernière à Washington. De passage à la VOA, l'argentier de l'État djiboutien s'est dit satisfait après avoir obtenu des promesses de financement des projets d'infrastructure de son pays portant sur des dizaines de millions de dollars. Au micro d'Abdourahman Dia, Ilyas Moussa Dawalé s'est aussi prononcé sur les relations entre son pays et les États-Unis, ainsi que la crise diplomatique entre ses voisins somaliens et éthiopiens concernant l'accord portuaire entre Addis Abeba et le Somaliland.
Notre table ronde, nous l'estimions autour de 250 millions. Mais nous avons également d'autres promesses et donc on va continuer à combler cette partie, à souder cette partie manquante. D'accord. Mais on est très, très, très content de cette première mobilisation de 135 millions qui va nous permettre de compléter plusieurs routes stratégiques pour Djibouti. Et donc, dans les semaines, dans les jours à venir, le reste sera complété, on a bon espoir.
D'accord. Djibouti se trouve dans une région stratégique, mais également un peu miné par des tensions. Pour ce qui est de la tension diplomatique entre la Somalie et l'Éthiopie, concernant l'accord portuaire entre Addis Abeba et le Somaliland, quelle est un peu votre position?
Notre position, elle est double. Premièrement, nous sommes extrêmement à cheval sur les principes de l'intégrité, de l'unité et de vivre ensemble dans la région. Donc pour nous, l'unité, l'intégrité et la souveraineté de la Somalie est non négociable. Et c'est valable pour n'importe quel autre pays voisin ou africain. C'est le principe de la charte de l'Union africaine également. Deuxièmement, notre position, elle est une position de neutralité en termes de résolution des conflits.
Qu'en est-il des relations entre Djibouti et les États-Unis? Nous savons que Djibouti est également convoité par d'autres puissances comme la Chine, la Russie. Quel est l'état des relations et...
Djibouti est un partenaire historique, stratégique avec les États-Unis. Un partenaire de choix. Un partenaire qui a sa première base en Afrique. Nos relations sont au beau fixe. Nous travaillons ensemble dans l'harmonie. La même chose avec tous les autres partenaires qui sont avec nous, notamment la Chine, la France, l'Italie et le Japon. Donc les choses sont très apaisées. Les combats géopolitiques ne nous concernent pas. Les combats des grands ne nous concernent pas.
C'était Ilyas Moussa Dalaoué, ministre djiboutien de l'économie et des finances.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le cannabis est un sujet qui fait rarement l'objet d'un consensus dans une Amérique politiquement divisée. Les sondages montrant que 88% des Américains sont favorables à une légalisation au moins partielle de cette drogue. Mais les défenseurs de l'usage du cannabis estiment qu'aucun des principaux candidats à la présidence ne tire parti de l'évolution des mentalités. Scott Stern, correspondant de la VOA, fait le point. Son reportage est relaté par Jean-Roger Billon.
Près des trois quarts des Américains vivent dans des États où la marijuana est légale lorsqu'elle est utilisée à des fins médicales. La moitié de la population vit dans des États où la marijuana est également autorisée à des fins récréatives. Mais le cannabis reste totalement illégal en vertu de la loi fédérale, où il est classé au même titre que l'héroïne et le LSD parmi les drogues dont l'usage médical n'est pas actuellement reconnu et qui présentent un fort potentiel d'abus. L'écrasante majorité des électeurs américains qui pensent que cela devrait changer fait du cannabis une rare opportunité pour les candidats Joe Biden et Donald Trump, notamment s'ils envisagent de toucher la frange des jeunes électeurs. C'est l'opinion de Scotty Smart, qui est un organisateur communautaire avec le groupe d'engagement civique New Georgia Project.
Beaucoup de gens ne comprennent pas les politiques. Beaucoup de gens ne savent pas comment les lois affectent leur vie quotidienne. Je pense que le cannabis est un sujet qui incite les jeunes à s'y intéresser.
Lors du Festival national du cannabis et du sommet sur les politiques de Washington au début du mois, la fondatrice Caroline Phillips a déclaré que ni Biden ni Trump n'avaient tenu leurs promesses.
Le point commun de ces deux gouvernements est que leur bilan en matière de cannabis est incohérent et changeant. Les deux administrations nous ont fait des promesses, mais aucune ne s'est concrétisée complètement.
Sous la présidence de Joe Biden, le ministère de la Santé publique et de la Population a recommandé de classer la marijuana dans une catégorie de drogue plus légère, c'est-à-dire de la reclasser plutôt que de la rendre légale, ce qui reviendra à la déclasser. De nouveau, Caroline Phillips du Festival national de cannabis.
La politique actuelle de la Maison-Blanche en matière de marijuana reste légèrement floue. Elle nous a donné des signaux forts indiquant qu'elle était prête à un changement de cap. Cependant, nous n'avons pas encore vu d'action à la hauteur de leurs paroles.
En 2018, le président Trump a déclaré qu'il soutiendrait probablement les efforts visant à mettre fin aux interdictions fédérales sur la marijuana et à laisser aux États de décider. Cette législation n'a jamais été adoptée par le Congrès. L'année dernière, Donald Trump a déclaré à un journaliste de Newsmax TV que les études montrent que la marijuana, je cite, « fait des dégâts importants et pourtant, du point de vue du vote, c'est une chose assez populaire ». L'évolution de l'attitude des électeurs américains à l'égard de la marijuana apparaît dans les sondages Gallup où l'année dernière, 70% des adultes se sont déclarés favorables à la législation. Les jeunes électeurs motivés par la légalisation de la marijuana espèrent que l'administration Biden prendra des mesures sur le cannabis avant les élections de novembre.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, Régie Carl, production Gisèle Morissin. Merci à vous d'avoir suivi et resté connecté sur notre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations 24 heures sur 24. À bientôt.